Europe Soir Weekend.
Pierre de Villeneuve.
Bonsoir, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver ce soir dans Europe Soir, vos débats du week-end sous le format, vous le savez, de Punchline avec bien sûr un grand journal tout à l'heure, le journal de Sophie Tussaud à 19h. Aujourd'hui c'est le 11 septembre, ça n'a échappé à personne et il y a 20 ans jour pour jour, le monde était en alerte dans toutes les capitales et grandes villes de tous les pays. Les avions de chasse étaient prêts à décoller, les états-majors, les services de sécurité et de renseignement bouillonnaient et les 6 milliards de personnes de cette planète étaient en arrêt. En arrêt devant l'horreur, en arrêt devant l'innommable, l'impensable et l'irréparable. Le spectacle bouleversant et nauséabond des avions transperçant les tours jumelles du World Trade Center est resté dans nos mémoires. Aujourd'hui, comme elle l'a pu, l'Amérique a rendu hommage aux 2977 victimes en égrenant leurs noms un par un. Un hommage présidé par Joe Biden avec en toile de fond sa décision pour les soldats américains de quitter l'Afghanistan. Décision critiquée une nouvelle fois aujourd'hui par Donald Trump, qu'il accuse d'avoir stoppé la guerre contre ceux qui ont fait tant de mal aux États-Unis, traitant au passage Biden d'idiot et d'incompétent. Une guerre en Afghanistan qui pourtant en 20 ans a coûté la vie à 2500 soldats et coûté en dollars plus de 2000 milliards. En France, le terrorisme est toujours là. Dernière attaque en date, faut-il le rappeler, celle de Rambouillet en avril dernier. Quant aux attentats de masse, il en est question avec le procès du 13 novembre qui a lieu en ce moment. Les 20 ans du 11 septembre, le terrorisme, on en parle de 18h à 19h avec nos invités. La course à la présidentielle, non, Emmanuel Macron n'est pas officiellement candidat et il ne devrait pas l'annoncer avant plusieurs mois. Mais pour autant, il multiplie ses sorties, vante le bilan de son quinquennat et missionne Jean Castex en représentation pour dresser le bilan économique. Idem, les jeunes macronistes s'apprêtent à distribuer des tracts sur le bilan partout en France. Macron en campagne, sans pour autant en campagne, c'est le en même temps ou c'est du Canada Dry, peu importe, c'est le jeu politique. Quel bilan du quinquennat Macron ? On en parle après le journal de 19h. Et puis comme chaque année, eh bien en ces premiers jours de septembre, c'est la fameuse rentrée littéraire. Comme à l'accoutumée, Amélie Nothomb a ouvert le bal avec un énième roman, sans doute l'un de ses meilleurs d'ailleurs au passage. S'en suivent 500 autres titres avec plus ou moins pour chacun l'espoir de remporter un prix littéraire. Le fameux Goncourt a fait son choix et a publié une première liste. D'autres listes suivront pour finir sur une dernière liste de 4 finalistes. Le premier sera vendu à 300 000 exemplaires environ. Les 3 autres seront lus par des aficionados de la littérature. Mais pendant ce temps, d'autres best-sellers seront édités à 500 000, à 1 million, à 2 millions d'exemplaires. Des livres qui ont toujours existé. Les polars, les livres de gare, oui, mais ces livres sont de plus en plus nombreux et avec Amazon, la folie du Goncourt a-t-elle encore autant de panache ? Qui lit les Goncourt ? Que valent encore les prix littéraires ? Qui sont les écrivains phares d'aujourd'hui ? N'y a-t-il pas une sorte de mouvement woke en littérature ? De tous ces sujets, on en parle dans Europe Soir avec Judith Vintraube, journaliste au Figaro, bonsoir.
Bonsoir.
Avec Christian Proutot, fondateur du GIGN, bonsoir.
Bonsoir.
Prisca Thévenot, porte-parole LREM, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Et Aurélien Taché, député du Val d'Oise qui arrive dans quelques instants. Sujet qui arrive à toute vitesse juste après 18h. À signaler dans l'actualité également, un 9e week-end de manifestation contre le pass sanitaire. 170 000 personnes devaient fouler le pavé partout en France. 200 défilés, dont 4 dans la capitale. Une mobilisation à quelques jours de l'entrée en vigueur de l'obligation vaccinale pour les personnels hospitaliers. L'homme qui a giflé Emmanuel Macron en juin dans la Drôme est sorti de prison. Condamné à 4 mois de prison ferme, il en a purgé 3. À sa sortie de détention, il a affirmé n'avoir aucun regret au sujet de cet acte. La fête de l'UMA ce week-end sans Jean-Luc Mélenchon, mais à laquelle va se rendre Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France. Anne Hidalgo devrait également participer. Le sport avec le tennis, Novak Djokovic qualifié pour la finale de l'US Open. Il a battu l'Allemand Zverev en 6-7, affrontera demain pour le titre, le russe Medvedev. La Formule 1 avec le Grand Prix d'Italie ce week-end. Et bonjour les tricheries. Valtteri Bottas sur Mercedes a eu beau remporter la course sprint qui fait les qualifications au Grand Prix d'Italie. Il n'empêche qu'il ne partira qu'en fond de grille demain à Monza puisque Mercedes a subi une pénalité pour avoir changé le moteur et d'autres éléments de la voiture au-delà du quota autorisé. C'est donc Max Verstappen sur Red Bull qui partira en pole. Et puis le football, 5e journée de Ligue 1. Hier soir en match avancé, Lorient s'est imposé face à Lille 2 buts à 1. À suivre aujourd'hui le PSG qui reçoit en ce moment Clermont et Monaco-Marseille à 21h. Vous êtes sur Europe 1 et il est 18h.
Europe Soir Weekend, 18h-20h.
Pierre de Villeneuve.
Nous nous souvenons tous de là où nous étions le 11 septembre 2001, dans l'après-midi, avec 6 heures de décalage sur la côte est américaine. Le matin des New-Yorkais, ce jour-là, n'était pas le même que d'habitude. À 8h46, un avion de ligne percutait la tour nord du World Trade Center. Image hallucinante, démente, presque irréelle, que commentent immédiatement les journalistes d'Europe 1.
On l'apprend à l'instant, une information hallucinante. Un avion de tourisme s'est écrasé cet après-midi dans la partie supérieure de l'une des deux tours du World Trade Center à New York.
Un deuxième incident, un deuxième avion, 15 minutes plus tard, qui aurait percuté la deuxième tour du World Trade Center.
J'ai vu un avion qui est rentré dans le World Trade Center.
On a l'impression que c'est la fin du monde, l'ambiance de guerre mondiale, oui.
La troisième attaque a eu lieu. Il est sûr que le Pentagone brûle, il est sûr que le Pentagone est en feu.
La première tour est tombée. Maintenant, il y a environ 20 minutes, la deuxième a dû tomber aussi.
Jamais aucun pays dans le monde n'a été la cible d'attentats terroristes d'une telle ampleur.
Un suspect, un homme, un nom, Oussama Ben Laden.
Combien de victimes dans ces tonnes d'acier et de gravats, vraisemblablement des milliers.
We're focused on justice.
Ce que nous voulons, c'est la justice.
And we're gonna get justice.
Et nous obtiendrons justice.
Voilà donc pour ces archives sonores, signées Victor Chabert, Christian Proutot. Qu'est-ce que vous faisiez ce jour-là, d'ailleurs, le matin du 11 septembre, de l'après-midi pour nous?
J'étais dans un supermarché et je me rappelle très bien que du côté des télévisions, il y a eu une rumeur, un affolement. Et la première chose que j'ai vue en arrivant devant les écrans qui avaient tous la même image, c'est la première tour, la tour nord, donc qui brûlait. Et on ne savait pas trop ce que c'était, puisque quand les images sont arrivées, on n'avait pas à ce moment-là, on ne savait pas que c'était... un avion, on savait soit un accident, peut-être un avion, mais pas délibéré. Un avion qui aurait commis une faute, puisque comme on le sait, à cet endroit-là, il y a pas très loin les aéroports...
LaGuardia.
LaGuardia, c'est ça. Et quelques secondes après que j'ai vu la première tour flamber...
Vous étiez en poste à l'époque, vous faisiez quoi ?
En 2001, non, j'étais préfet en mission de service public, donc je travaillais sur l'Égypte et j'étais revenu. On m'avait demandé de faire une étude sur les attentats d'Hatchepsout.
Oui.
On me demandait de.
Exactement.
J'étais revenu après avoir effectué cette mission, donc je n'avais pas de mission à ce moment-là. Et je vois là délibérément un avion qui percute la tour sud.
Et là, il n'y a plus aucun doute.
Et là, du coup, il n'y avait plus aucun doute. Et tout de suite, je me suis dit, c'est une attaque coordonnée. Et ils ont utilisé les avions comme on l'avait pensé déjà. Hein, puisque quand on a fait les études sur les centrales nucléaires, il était prévu que les centrales puissent résister à un avion qui pouvait percuter une centrale. Mais surtout, ce que tout le monde oublie, après l'attentat de 94 sur le détournement d'avion du Paris-Alger, où on a demandé au GIGN d'intervenir, parce que les informations dont nous disposions, c'était qu'il voulait redécoller pour aller percuter la tour Eiffel.
Ouais.
Donc un schéma tactique qui était percuter ce qui marque un pays, en l'occurrence l'Amérique triomphante peut-être à travers les Twin Towers, sachant très bien qu'à ce moment-là, on ne savait pas encore qu'ils allaient percuter le Pentagone et ensuite l'avion qui est tombé à 5000.
Judith Vintraube, 20 ans après, que vous inspire justement cette commémoration? Je l'ai dit en préambule, l'Amérique commémore, ou en tout cas se souvient comme elle peut de ces attentats terribles. On a entendu Jacques Chirac dans cette archive sonore qui disait « Jamais des attentats d'une telle ampleur n'ont eu lieu ».
Oui, sans les qualifier d'ailleurs. Jacques Chirac parle d'attentats terroristes, il ne parle pas de terrorisme islamiste. Symétriquement, dans son tweet aujourd'hui, Emmanuel Macron, pareil, nous n'oublierons jamais, nous combattrons toujours pour la liberté. On se demande presque de quoi il parle. Heureusement qu'il y a la mention 11 septembre. Aujourd'hui, à la lumière des événements d'Afghanistan et de la victoire des talibans, le 11 septembre apparaît comme la déclaration d'une guerre que nous avons perdue. Et quand je dis nous, c'est pas simplement les Américains, ce sont les Occidentaux.
Mais à jamais,
en général.
À jamais, vous voulez dire ?
Pour le moment,
pour
en
le
tout
moment.
Cas.
Mais vous avez l'air pessimiste. Vous êtes d'accord les uns les autres avec ce que dit Judith ? Est-ce qu'à jamais on a perdu la guerre contre les terroristes, en tout cas contre les talibans en Afghanistan, Prisca Thévenot ?
Non, on ne peut pas se dire qu'on a perdu à jamais la guerre contre le terrorisme, mais heureusement. Mais effectivement, c'est une guerre longue, c'est une guerre compliquée. C'est une guerre, effectivement, qui a eu un moment très sombre cet été avec ce qui s'est passé en Afghanistan, comme vous venez de le dire très justement. Mais on ne peut pas se dire qu'elle est perdue à jamais, ne serait-ce que par respect pour toutes ces familles endeuillées, pour tous ces morts, tous ces blessés. Ça a aussi une résonance un peu particulière par rapport à la semaine dans laquelle nous sommes entrés en France, avec aussi nous le procès qui s'est ouvert en France justement suite à des attaques terroristes sur notre sol. Donc non, pas à jamais, mais oui, le combat est long et il va falloir le mener encore et encore. Et comme le rappelait Georges Blaulieu-Bouche, dont j'ai pu entendre une partie de son extrait cet après-midi, qui disait que justement, là où nous avons pu nous relever en tant que démocratie occidentale, c'est parce que nous avons été unis. Et que quelque part, cette union, au-delà d'être un aspect purement bisounours, il va aussi falloir la retravailler. Parce que aussi, ces terroristes jouent sur nos divisions et créent ces divisions.
Aurélien Taché vient de nous rejoindre. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci de participer au débat. Vous étiez où, vous, le 11 septembre 2001, dans l'après-midi ?
Chez mes parents. J'avais 17 ans. Je me rappelle que j'étais avec ma mère. Je me rappelle très bien de voir à la télé ces attaques. On se pose évidemment des questions sur ce qui se passe, parce qu'on n'avait pas encore... On était dans une ère où les attentats terroristes islamistes, effectivement, n'étaient pas aussi répandus. Il y avait des problèmes au Moyen-Orient, il y avait eu des choses à Paris, on se rappelle dans les années 90, avec certains groupes armés algériens, GIA. Mais bon, c'était quelque chose d'incomparable. Et effectivement, je me rappellerai toute ma vie de cette journée. Oui, elle ouvre une ère nouvelle, plutôt pour le pire que pour le meilleur. Hein. Les années 90 ont été un petit peu... Finalement, après l'effondrement, enfin la fin de la guerre froide, l'effondrement du bloc soviétique, une période de transition vers où on avait parlé de fin de l'histoire.
Période d'instabilité aussi.
D'instabilité, c'est vrai, mais on pensait quand même que globalement, la démocratie libérale allait peu ou prou se mettre en place un peu partout. Et c'est vrai qu'à partir de ce début du XXIe siècle, en tout cas, certains le pensaient.
Ouais. Les Balkans, en Algérie, il y a eu quand même deux ou trois spots dans le monde où c'était pas fantastique.
C'est intéressant qu'Aurélien Taché cite Fukuyama, puisque c'est de lui dont il s'agit, parce que en fait, quasiment en même temps, avait paru Le Choc des civilisations de Samuel Huntington, qui dont la thèse était presque l'inverse. Oui. Lui disait au contraire que la fin de l'affrontement entre bloc soviétique et monde libre allait céder la place à un affrontement entre ethnies, entre cultures différentes, des affrontements religieux. Et en fait, le 11 septembre ouvre cette période-là. Mais je voulais préciser, quand je dis « nous l'avons perdu », à la lumière des événements d'Afghanistan, c'est nous avons renoncé à la mener, en tout cas à l'extérieur de nos frontières, nous, Occident. Le retrait d'Afghanistan sonne la victoire des islamistes dans les terres où ils sont implantés. Je parle pas de défaite contre le terrorisme sur nos territoires.
Je comprends tout à fait, et je vais vous rejoindre sur effectivement le sujet de l'Afghanistan. Mais encore une fois, la France a rappelé que nous n'allons pas abandonner ce combat. Mais n'oublions pas qu'on a aussi encore des femmes et des hommes qui sont en OPEX, en opération extérieure, pas forcément dans la région Proche-Orient, mais par exemple dans la région du Sahel, etc. Donc nous continuons à mener cette bataille. Bien évidemment, nous avons, nous en tant que pays occidentaux, eu un coup dur cet été avec le sujet de l'Afghanistan. Mais non, nous, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, le combat, nous avons baissé les bras. Peut-être, se pose aussi la question de savoir peut-être comment nous pouvons mener ce combat différemment.
Vous citiez George Walker Bush, qui était le président des États-Unis au moment du 9-11. Et bien justement, il a tenu un discours aujourd'hui à Shanksville, en Pennsylvanie, là où vous savez que l'un des quatre avions s'est écrasé parce que les passagers se sont rebellés contre les terroristes, et ils ont fait de sorte que, justement, cet avion n'aille pas à sa cible qui était le Pentagone. Dans les semaines et les mois qui ont suivi les attentats du 11 septembre, dit George Bush aujourd'hui, j'étais fier de diriger un peuple impressionnant, résilient et uni. Si on parle de l'unité de l'Amérique, ces temps semblent lointains. Des forces du mal semblent à l'œuvre. Il dénonce la colère, la peur et le ressentiment des Américains. L'Amérique a changé, le monde a changé.
Juste peut-être un mot sur ce que, oui, là, ce que le débat qu'on a sur l'ouverture finalement d'une nouvelle époque avec ces attentats, c'est réel, mais effectivement le test de Huntington est développé à ce moment-là et pour justement George Bush, il est un petit peu dans cette idée-là. Mmh. Et donc une série de guerres et d'interventions armées vont donc suivre avec oui. L'Afghanistan, oui, avec l'Irak et tout un tas d'autres. Et ça, je pense que ça n'a pas été la réponse appropriée. Alors c'est facile de le dire maintenant.
Sauf qu'il l'a mal lu, parce que Huntington ne dit pas du tout ça. Il dit, gardons-nous au contraire d'imposer le modèle occidental. Notre modèle est unique, mais il n'est pas universel.
En tout cas, c'est vrai que c'est cette époque-là qui s'ouvre à ce moment-là, et je pense qu'elle se clôt aujourd'hui avec ce retour des talibans, et qu'on a compris que pour lutter contre le terrorisme, je ne sais pas d'ailleurs si vous parlez de guerre contre le terrorisme, parce qu'en fait, on a répondu à cette notion de terrorisme avec des guerres conventionnelles, territoriales, en allant en Afghanistan, en Irak, ailleurs, et on voit que ça n'a absolument rien réglé au problème. Donc, effectivement, je pense qu'il faut aborder la question d'une autre manière pour rejoindre
Christian Prisca-Tévenou
à l'instant. Non, moi je pense que là où on a commis la faute, c'est justement en voulant imposer à travers une vengeance qui était la vengeance des Américains, avec un silence assourdissant de la part de l'Europe et de la position qu'elle occupait, on a laissé faire quelque chose qui, justement, actuellement, nous en vivons les conséquences. Toute cette déstabilisation qui a eu lieu après l'Irak et en Afghanistan, parce qu'elle a commencé, il ne faut pas oublier, avec l'armement des talibans, quand c'était encore les combats Est-Ouest contre les soviétiques, les soviétiques à ce moment-là, les Américains ont commencé à mettre un système en place qui nous explose à la figure.
Mais que fallait-il
Toute
faire
la géopolitique de cette époque est insensée.
Fallait-il faire ?
Pardon ?
Que fallait-il faire alors ?
En tous les cas, puisqu'on avait réussi à avoir les tyrans qu'on ne méritait pas, mais qui sont devenus les tyrans, qui ont fait qu'à un moment, il fallait bien faire quelque chose, il aurait fallu que ces laïcs, on les traite autrement, on les laisse pas faire. Or, venir dire qu'on a libéré l'Irak, c'est insensé. On était très contents d'avoir l'Irak quand elle a fait une guerre de substitution à notre place contre l'Iran. Et tout ça était la soi-disant géopolitique du moment. Mais le 11 septembre, ce qui est déclenché, c'est pas... c'est une vengeance.
Non, c'est pas une vengeance.
Ah, si.
On veut trouver les auteurs du 11 septembre et on veut les empêcher de nuire. C'est pas une vengeance. L'erreur énorme, et là je vous rejoins, c'est le nation building. L'idée qu'on va non seulement éradiquer ce foyer terroriste,
mais
imposer en plus
une nation.
Apporter clé en main notre modèle et l'implanter.
Mais
plus qu'économique, politique, juridique.
On ne peut pas dire ça parce que on ne peut pas, au moins, si vous avez raison sur une partie, on ne peut pas laisser tomber tout ce côté américain qui a été le côté vengeur. On va venger les États-Unis, on va venger nos morts, on fait le calcul tel que le font malheureusement les Occidentaux, mais pas ces gens qui nous combattent.
Ouais.
On fait le bilan mortuaire, c'est 3000 morts.
Donc vous voulez
par le 11 septembre.
On est rentré dans une spirale.
7000 morts. Uniquement aux soldats américains. 7000 morts entre l'Irak l'Irak et l'Afghanistan. Où est le bilan, là ? Il est bien, au départ, qu'on a engagé une guerre, et tout le monde le savait. Powell le savait.
Le
savait, ou faisait semblant de pas le comprendre. Le seul... Il n'y a que nous qui, avec... où on a pu être fiers de nous avec de Villepin. Faut pas oublier.
Vous avez parfaitement raison, mais il faut peut-être distinguer justement la question de l'Afghanistan et de l'Irak. Qu'au départ, en Afghanistan, l'armée américaine et les armées occidentales y aillent pour trouver les terroristes, c'est tout à fait vrai. Le problème, c'est qu'ils sont restés ensuite et qu'ils ont essayé de mettre en place les théories des néoconservateurs sur le nation building. En revanche, l'Irak, c'est vous qui avez raison, c'est une vengeance des Bush qui n'a absolument rien à voir, au final, avec la situation terroriste. On a su après que...
Aussi.
Bien sûr, et qu'ils avaient menti sur la présence d'armes de destruction massive en Irak, qu'il y avait des questions qui étaient plus liées à des sujets économiques, pétroliers, politiques, de vengeance contre Saddam Hussein, mais qui n'avaient pas grand-chose à voir finalement avec ce qui venait de se passer en 2001. Et là, ça a été une sorte de péché capital de la part de l'administration américaine de cette époque, dont on a payé le prix très cher, parce que rappelons-nous que c'est cette déstabilisation de Saddam Hussein qui crée ensuite
ensuite des dissidences dans l'armée irakienne qui peu à peu deviendront Daesh en rivalité
des
avec Al-Qaïda.
Exactement.
Donc ça
oui.
c'est quand même quelque chose qui est
oui,
absolument
mais
terrible.
Il faut remonter quand même plus loin. La confrérie des frères musulmans et son projet de conquête du monde ne datent pas de l'intervention occidentale, de la guerre occidentale contre l'Irak.
Mais ils n'ont jamais été aussi puissants que l'on est intervenu dans ces pays. Jamais.
Et c'est pas les mêmes groupes.
Et en plus, c'est pas tout à fait effectivement les mêmes groupes. Ce qu'il faudrait rappeler quand même, c'est qu'après la chute du mur de Berlin, où effectivement, il n'y avait plus qu'un seul pays, qui était les États-Unis. Il ne faut pas oublier qu'au moment où ils auraient dû effectivement avoir une géopolitique qui, s'ils effectivement, ils prétendaient à être à la tête du monde, ce qu'ils étaient effectivement en matière de fait, qu'ils étaient de fait à ce moment-là, ils auraient dû nous allier, entre guillemets, à leur position. Or, quand vous prenez Echelon, qui était le système central d'écoute vers l'Est, qui a été orienté pendant toutes ces années pour arriver en 2001 au 11 septembre uniquement sur des problèmes économiques et d'intelligence économique, on croit rêver. Les Américains ont cru qu'ils tenaient le monde et ne sont pas du tout fait du renseignement, alors que le terrorisme existait déjà sur l'Europe. La montée du fondamentalisme existait. Et s'il y a eu le 11 septembre, c'est parce qu'il y avait nada. Ils savaient rien.
En tout cas,
et après le 11 septembre, par contre, ils avaient tous les éléments. Très rapidement.
En tout cas, le côté va-t-en-guerre des Américains a fondamentalement changé aujourd'hui par rapport à effectivement l'intervention en Irak et en Afghanistan.
Oui, tout à fait. Et ça a commencé déjà dès l'élection de Barack Obama, où le retrait d'Afghanistan avait commencé à être mis en avant, où on sentait que, rappelons-nous, 2013 ou 2014, je crois que c'est 2013, quand François Hollande veut intervenir
2014.
En Syrie, c'est 2014.
Hein, la ligne jaune.
Suite voilà, aux armes chimiques, vous vous rappelez, Obama nous lâche, il n'y a pas d'autre mot, même si, et d'ailleurs ça avait été assez terrible, même si Bachar al-Assad avait violé ses engagements et utilisé le gaz sarin et les armes chimiques contre son peuple, on sent à ce moment-là un changement de doctrine qui est encore plus accentué, effectivement, avec Donald Trump qui lui assume complètement un isolationnisme américain, il est élu sur cette base d'ailleurs, parce que ras-le-bol, en partie sur cette base, parce que ras-le-bol de la guerre et de perdre des enfants année après année pour les familles américaines. Voilà. Donc effectivement, il y a un changement complet de ce point de vue-là. Moi, ce qui m'inquiète un petit peu pour la suite, et ce retrait de Joe Biden assez rapide aussi nous a tous un peu perturbés, c'est que en fait, le message pour les Occidentaux et pour les Européens, c'est maintenant, débrouillez-vous. Quoi. Et s'il y a d'autres attentats, d'autres conflits ou autres, il faudra plus compter sur les Américains ou peu. Et est-ce qu'on s'est organisé nous, au niveau européen, pour avoir une Europe de la défense ou autre, malheureusement pas suffisamment. Et moi, je continue de penser que ça devient une priorité.
Une première pause, pardonnez-moi Judith, une première pause, et on revient dans les débats d'Europe Soir avec Judith Vintraub, Christian Proutot, Prisca Thévenot et Aurélien Taché. Restez avec nous, c'est Europe 1.
Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve.
Avec autour de la table Prisca Thévenot, porte-parole de La République En Marche, Christian Proutot, fondateur du GIGN, Judith Vintraub, journaliste au Figaro Magazine, et Aurélien Taché, député du Val-d'Oise. On parle du 11 septembre 2001, 11 septembre 2021, 20 ans après, quels enseignements, quelles leçons tirées justement de tout ça. On parlait de l'Europe de la défense, Judith Vintraub.
Oui, absolument. Aurélien Taché utilisait un euphémisme en disant qu'elle n'avait pas avancé très vite. Elle fait du surplace, voire elle recule, et on s'en aperçoit cruellement au Mali, où malgré les appels répétés de tous les présidents français concernés, on est toujours extrêmement seul, et où la question de l'utilité de notre présence commence à se poser de façon extrêmement urgente. Alors, dans le retrait américain d'Afghanistan, il y a deux choses. Il y a le fond. Ils avaient tout à fait toute légitimité à se retirer. Et puis la forme qui a été du grand n'importe quoi pour ne pas utiliser pire, c'est-à-dire que on a les militaires en premier et puis les civils ensuite, au lieu de faire l'inverse comme la logique et la coutume l'aurait exigé. En ce qui concerne le Mali, ce serait bien que Emmanuel Macron profite de la présidence française de l'Union européenne. Il va prendre en janvier pour que la question soit vraiment posée.
Prisca Thévenot.
Oui, tout à fait, et c'est le cas. C'est le sujet qui est montré aussi. Les crises permettent aussi de faire avancer certains sujets peut-être plus rapidement. Et le sujet de l'Europe de la défense a été abordé pas plus tard que la semaine dernière, si je ne me trompe pas, à l'Élysée. Une délégation d'eurodéputés du groupe Renew a été reçue par le président de la République. Et à l'ordre du jour, il y avait effectivement sur la table le sujet de l'Europe de la défense. Et il s'agit en effet de pouvoir faire en sorte que de réduire la dépendance de l'Union européenne vis-à-vis des États-Unis sur ce sujet bien précis, sans pour autant remettre nos alliances par ailleurs. Donc oui, ce sujet est à l'ordre du jour, et d'autant plus que nous allons prendre la présidence de l'Union européenne d'ici quelques semaines, quelques mois.
Aurélie Attaché.
Alors effectivement, tant mieux si ça a été abordé à l'Élysée. Après, comme vous venez de le préciser, Prisca Tevenot, c'était avec des députés européens du groupe Renew, donc les amis du président. Mais est-ce que pour autant les Allemands, les partenaires et les différents pays qui aujourd'hui ne s'impliquent pas ni au Mali ni dans les sujets de défense européenne, je pense en particulier à l'Allemagne, et moi j'ai été très inquiet au moment du Brexit aussi de ce départ de l'Angleterre pour ces questions de défense, parce que les seuls qui avaient à peu près une armée avec lesquels on pouvait travailler depuis l'entente cordiale et le 19e siècle sur la question militaire, ce sont bien les Anglais. Les Allemands, ça n'a jamais été tellement le cas, et puis ce sont pour des raisons historiques désengagés sur le plan de la défense depuis des décennies. Donc comment on fait? Il y a vraiment un sujet à traiter de manière beaucoup plus intégrée dans le fonctionnement de l'Union européenne sur ces questions de défense, et malheureusement pour le moment on a beaucoup de mal à le faire.
Vous savez, mode d'emploi,
Catherine. Il ne s'agit pas du mode d'emploi, mais je pense que là, le sujet, ce n'est pas d'être ami ou pas ami. C'est effectivement, pour porter ces sujets, il faut s'appuyer sur nos parlementaires européens. Sinon, à quoi sert le Parlement européen?
Une majorité.
Donc,
aussi.
Oui,
c'est pour
non
ça que
mais,
je parlais de ses amis,
non,
parce que est-ce
je
que
veux
les autres
bien,
sont d'accord?
Mais justement, ne faisons pas comme nos oppositions nationales, c'est-à-dire cachons-nous derrière le fait que nous ne sommes pas assez nombreux pour porter des sujets. Et d'ailleurs, de manière globale, la France a montré que, en tout cas sur ce quinquennat, que lorsqu'on voulait porter des sujets, quand bien même nous avions une voix unique, nous le faisions. Sur le sujet de la taxation des GAFA et des multinationales, la France a porté ce sujet. Bruno Le Maire a eu des avancées incroyables par rapport à ce qui avait pu être fait avant. Donc je pense que venir se cacher, et vous le dites très justement, venir se cacher derrière le fait qu'on n'est pas forcément majoritaire, ne peut plus durer. Il faut absolument porter les choses, bien évidemment via nos parlementaires Renew, mais ouais, également mais via la voix du président de la République.
Cette Europe de la défense, quelle forme peut-elle prendre, Christian Proutot, à votre avis?
On a cru à un moment que la forme serait, on va prendre ceux qui ont une armée qui existe réellement, et on partagera les frais. En gros, c'était comme ça, sans penser que derrière, il pouvait y avoir également un engagement avec un prix humain, et que peut-être à ce moment-là, pour la nation, en particulier la France et la Grande-Bretagne, avant qu'elle s'en aille, ça faisait peut-être lourd à gérer. Mais il faut se dire que le fauné de tout ça, ça a été l'OTAN. À partir du moment où on a cru pendant des années qu'on pouvait se cacher derrière ça, en faisant le minimum du minimum, on se disait c'est les Américains, il faut en arriver, malheureusement, on le voit avec le 11 septembre, et l'analyse qui a pu être faite a posteriori de tout ce qui faisait que les États-Unis ne savaient pas ou n'étaient pas capables de gérer le problème d'une guerre asymétrique, et surtout, les problèmes géopolitiques qui vont autour de la spécificité de l'ennemi actuel qui est le fondamentalisme, qui leur passe à 10 000 au-dessus de la tête, parce qu'ils se considéraient comme isolés, on avait la possibilité de ne pas prendre conscience qu'il y avait besoin de cet effort européen. Je vous donne un exemple qui est en parallèle, qui est franco-européen, si j'ose dire. En France, on se pose le problème de l'immigration, mais on a accepté Schengen sans poser les véritables conditions qui faisaient que Schengen pouvait être viable. On a créé Frontex, qui était un espèce de machin avec 1000 hommes. Mais il aurait fallu faire déjà à cette époque une force européenne pour mettre en périphérie
de l'Europe.
Oui, les
choses ont été faites à l'envers, comme souvent.
Voilà, non mais, sauf que le jeu est haïssable, comme disait Pascal. Moi, j'en ai parlé à Jacques Chirac, pas directement, mais par l'intermédiaire d'une belle note. Mais à l'époque où, justement, au début de sa place, au début où il a pris la présidence, nous étions justement à la présidence de l'Europe. Et moi, en tant que, avec mon expérience du terrorisme et de la manière dont ça pouvait se passer, cette perméabilité me posait problème. Et il était important que nous ayons en périphérie de l'Europe, où il y avait les pays les plus pauvres, une aide et un corps européen qui fasse en sorte qu'on puisse garantir, au moins pour l'Europe, ce type de frontières.
Mais j'ai l'impression, à vous entendre les uns les autres, qu'à chaque fois qu'arrive une catastrophe, on multiplie les outils. C'est-à-dire qu'on va se munir, comme les Américains ont fait le Patriot Act, on va se munir d'outils pour avancer. Mais en réalité, on multiplie les outils et finalement, on n'avance pas si bien que ça.
Moi, comment je dirais plutôt les constats, parce que ce que Christian Proutot vient de dire sur Schengen, je ne vois pas à l'heure actuelle un candidat déclaré ou putatif à la présidentielle qui ne le dise pas aussi. Tout le monde considère que Schengen dysfonctionne, qu'il faut à minima le refonder complètement.
Bon, c'est-à-dire qu'il y a les deux sons de cloche quand même sur Schengen.
Ah oui, non, et puis surtout, je vois personne qui dise Schengen c'est formidable, continuons comme ça.
Ah oui,
personne.
Non, non, bien sûr, mais par contre, on a de plus en plus de candidats qui, malheureusement, selon moi, sont plutôt sur une voie où finalement Michel Barnier, le grand européen lui-même, commence à dire qu'il faut peut-être arrêter avec un certain nombre de choses dans la construction européenne, notamment sur les questions migratoires. Moi, ça me semble aller complètement dans le sens inverse de ce qu'il faudrait faire. Oui, c'est dur, la construction européenne. Oui, on a du mal à avancer sur un certain nombre de politiques, mais il ne faut absolument pas abandonner ce projet finalement, par facilité électorale.
Il y a des outils, outils qui ne fonctionnent plus. Vous parliez de Schengen, c'est un peu comme le Minitel. Peut-être qu'à un moment donné, il faut passer au smartphone.
Je vais rejoindre Aurélien Taché. On s'entend vraiment sur ce sujet-là.
Oui, sur la question européenne.
Voilà, mais vraiment, encore une fois, il ne s'agit pas de créer des outils sur des outils, etc., mais peut-être aussi de faire évoluer la construction de l'Europe, parce qu'effectivement, c'est une construction qui doit s'inscrire dans le temps et la durée, avec aussi le contexte qui est le nôtre. Mmh. Et force est de constater que ce contexte que nous vivons aujourd'hui n'est pas celui de 2000 et n'est pas celui qui existait au moment de la construction européenne. Donc je pense que effectivement le sujet n'est pas à venir dire faisons table rase de l'Europe et puis essayons de voir comment ça se passera. C'est faux. La France sans l'Europe ne sera jamais aussi forte. Par contre, il faut renforcer cette Europe, la travailler en tant qu'entité intrinsèque, en tant qu'entité propre et avancer dans ce sens-là. Aujourd'hui, moi, effectivement, je suis d'accord sur votre constat qui dit que Schengen est remise en cause. Mais attention, elle est remise en cause pour avancer par certains et elle est remise en cause pour être détruite par d'autres. Et ça, par contre, je trouve que c'est assez dangereux en l'état actuel des choses et notamment sur le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, qui sont nos attaques terroristes. Mmh. La France a besoin d'être beaucoup plus grande et beaucoup plus solide et d'être avec d'autres pour mener cette bataille qui ne se fera pas pays par pays.
Christian Proutot.
Non, je ne voudrais pas qu'on se trompe sur ce que je voulais dire en évoquant Schengen, parce que je me rends compte que tout d'un coup, ça pourrait mettre dans l'esprit de tout le monde que Schengen aurait été une erreur au niveau de l'Europe.
Non, mais ce n'était pas une erreur. À un moment lambda. Mais c'est peut-être un outil aujourd'hui, on va dire, un peu désuet qui ne fonctionne plus aussi bien que dans les années où ça a été créé.
Il y a quand même le principe de libre circulation des personnes qui est un principe fondamental de l'Union européenne. Si
Absolument.
On commence à arrêter ça, le projet européen, il n'a plus beaucoup de sens.
Voilà. Fois, hein.
Donc après, l'outil par contre, il faut le faire adapter et qu'effectivement ça dysfonctionne, comme le disait Judith Ventroux notamment, moi je suis d'accord avec ça.
C'est pour ça que je parlais du Minitel et du smartphone, ça reste un outil de communication.
La finalité, c'est est-ce qu'on sauve, est-ce qu'on l'améliore,
mais en réalité, l'image est bonne.
Je partage totalement ce point de vue, sauf que je voulais souligner que Schengen, au moment où ça a été créé, on est passé à côté de quelque chose, c'est tout. Et ce quelque chose était en fait de se dire, si on veut créer une entité, elle peut pas être qu'à travers l'euro. Et ça va dans la logique des choses, on va jusqu'à la défense. Voilà, c'est sous cet angle-là.
Mais est-ce que la bonne démarche ne consisterait pas, pour ne prendre que Schengen, à d'abord réunir autour d'une table les pays qui sont d'accord entre eux pour contrôler leurs frontières et pour essayer de maîtriser l'immigration et lutter contre le terrorisme, au lieu de prendre le PAC Schengen dans l'état où il est.
J'adore, je vais prendre le PAC.
Et d'essayer d'arriver à un compromis qui sera forcément boiteux. C'est ça la question. D'où on part ?
Non mais d'où on part, c'est le constat que les pays qui sont en bordure de l'Europe, qui sont les pays les moins riches, c'est eux qui supportent la problématique.
Les faiblesses de Schengen sont dues à la mauvaise volonté ou à l'incapacité de certains des pays membres faire le travail.
C'est ce que je vous dis.
Si vous mettez les mêmes autour de la table, vous aurez les mêmes résultats.
Non, je pense qu'il faut, que le poids économique que représente ce que vous dites être de la mauvaise volonté...
Ou de la capacité.
Non.
Si,
de toute façon, vous n'êtes pas d'accord, donc laissez-le finir.
Non. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne pouvait pas laisser ces gens-là, dont on savait qu'ils avaient la position économique la plus difficile de l'Europe, face à un problème que nous considérions comme important, sans les aider. C'est tout ce que je veux dire. Et effectivement, c'est de l'hypocrisie. Et c'est là où il faut aller jusqu'au bout de la démarche. Et faire que Schengen, pour que son application soit supportable par tout le monde, on met en place des mesures, et c'est financier, il ne faut pas se voiler la face, que tout le monde prend en charge.
Voilà. Ouais, et des outils intégrés. Et il faut rappeler aussi que l'Allemagne a une grande responsabilité dans le fait qu'on ait un peu laissé la Grèce seule à cette époque-là.
Je ne la citais pas.
Il faut le dire, je crois. Et que la seule solution qu'elle a ensuite impulsée l'Allemagne, et Angela Merkel à l'époque,
c'était la négociation avec la Turquie.
Plutôt que de construire une politique migratoire européenne digne de ce nom. Et donc, comme sur le sujet de l'armée, j'ai pas envie de verser dans la germanophobie primaire, mais comme sur le sujet de l'armée, sur cette question des politiques migratoires, il y a eu des vrais désaccords avec l'Allemagne et on en paye aujourd'hui un prix fort. Et c'est pour ça que c'est encore plus grave, je trouve, encore une fois, je le répète, que le Brexit ait été fait. Et aujourd'hui, pour repartir sur une dynamique de construction européenne positive, il va falloir se reposer un certain nombre de questions, parce qu'effectivement, ces questions régaliennes doivent être au centre du futur projet européen.
On parle beaucoup de l'Europe. On peut, si vous le voulez bien, revenir un petit peu aux États-Unis, parce qu'on a laissé New York avec les commémorations. On va en reparler dans le journal de 19h tout à l'heure. Ces noms des 2977 victimes qui ont été égrenées toute la matinée à New York, sur Ground Zero. Est-ce qu'aujourd'hui, les États-Unis, avec ce qu'on sait, avec cette décision politique de quitter l'Afghanistan, avec cette décision, j'allais dire, d'un inversement militaire, si j'ose dire, est-ce que l'Amérique est aujourd'hui waterproof? Est-ce qu'elle est imperméable au terrorisme? Bien sûr que non, Christian Poteau.
Écoutez, si on en juge par la manière dont le renseignement qui aurait dû faire que la première protection contre le terrorisme, c'est le renseignement, et les États-Unis auraient dû le mettre en place, si ce renseignement est à la hauteur, ce dont je doute, quand on en juge, par exemple, simplement sur un constat stupide. Mmh. On nous a annoncé, le président des États-Unis nous a annoncé qu'il y avait 18 mois tranquilles, même après leur départ, parce qu'il y avait une armée forte, et que cette armée, forte de 300 000 hommes, qu'ils ont payé rubis sur l'ongle, existait. On s'est rendu compte que c'était une armée fantôme, qu'elle avait plutôt nourri toutes les turpitudes propres à ces pays où il n'y a pas véritablement d'épines dorsales, et que beaucoup de gens se sont enrichis sur des soldats fantômes. Les seuls qui en tirent profit sont les Afghans, les talibans, qui ont récupéré tout le matériel qui restait. Il n'y avait pas un soldat. Alors, si le renseignement est à cette hauteur, je vous prie de croire que les États-Unis ne sont pas à l'abri de quelque chose.
Par ailleurs, pour essayer de répondre plus précisément à la question de Pierre, les talibans revendiquent un projet qu'on peut résumer par l'islam dans un seul pays. Ils n'ont pas de volonté d'exporter leur modèle. En revanche, ils sont en lutte avec les hommes de Daesh.
Ils ne sont pas les seuls, c'est ça.
Ils ne sont pas les seuls, mais ils en ont sur place. Et l'énorme danger qui nous menace tous, pas seulement les États-Unis, c'est que les talibans fassent d'une pierre deux coups en exportant ces hommes de Daesh, dont certains, oui, même nombreux, ont été libérés en même temps que les talibans libéraient des membres de l'État islamique qui étaient détenus dans les prisons afghanes, et que le terrorisme de Daesh...
Donc c'est une bombe à retardement.
Exact, oui, et à retardement peut-être court.
Et c'est vrai que là, on voit que les Américains, finalement, avec ce que vient de dire Christian Poteau aussi, ont finalement... enfin, alors qu'on pensait qu'ils, en tout cas les opinions publiques majoritairement, qu'ils s'occupaient du sujet sérieusement, si je puis dire, en fait s'en désintéressaient complètement depuis longtemps, et avaient des priorités ailleurs, et avaient la tête ailleurs depuis longtemps, et donc on laissait ce système d'armée fantôme, enfin voilà, prospérer sans vraiment s'en émouvoir, et peut-être que notre erreur à nous aussi, ça n'a pas été de s'en inquiéter plus tôt, parce que voilà, maintenant on paye fort le prix de ce retrait précipité, et l'instabilité sur place, et un risque terroriste qui est évident pour les Européens, et dont on sait maintenant que les Américains vont nous laisser un petit peu nous débrouiller. Donc c'est vrai que tout ça est quand même très préoccupant, et encore une fois, les Américains là-dessus, enfin, y a une vraie déception, quoi, de ce qui s'est passé et de la manière dont ils ont géré ça, et aujourd'hui je crois que tout le monde s'en rend compte.
Une nouvelle pause dans les débats d'Europe Soir. On revient dans un instant avec Judith Vintraub, journaliste au Figaro Magazine, Christian Proutot, fondateur du GIGN, la porte-parole de l'REM Prisca Thévenot et le député du Val-d'Oise Aurélien Taché. Restez avec nous, cette Europe.
Europe Soir Weekend. Pierre de Villeneuve.
Et autour de cette table, Judith Vintraub, journaliste au Figaro Magazine, le fondateur du GIGN que vous connaissez, Christian Proutot, porte-parole LREM, Prisca, Thévenot, et il y a beaucoup de R. Et Aurélien Taché, député du Val-d'Oise. Non mais pas pour vous, il y a beaucoup de R.
C'est une attaque.
En règle générale, chers amis, nous parlons de l'émotion en ce moment, on voit les commémorations se continuent, hein. Après justement cette cérémonie à Ground Zero pour les 20 ans du 11 septembre 2001, on se souvient tous, on en a parlé en début d'émission, de là où on était, de ce qu'on faisait, ce monde qui s'est arrêté le 11 septembre 2001. Il y a eu des attaques, le terrorisme continue et d'une certaine manière, Christian Proutot, je l'ai dit tout à l'heure en préambule, est-ce que le terrorisme ne s'est pas banalisé?
Ah non, je pense pas justement. Et moi qui ai tendance à dire, et ça m'est souvent reproché, que le terrorisme est un épiphénomène, quand on réfléchit bien sur le bilan, excusez-moi d'être trivial, mais sur le prix que l'on doit payer,
oui.
C'est terrible. Mais par contre, il marque. Et c'est ça le terrorisme, c'est que c'est quelque chose qui est fait pour marquer les esprits. C'est le principe même de la guerre asymétrique. Quelques personnes, tout d'un coup, décident qu'ils peuvent ébranler les certitudes d'un pays constitué, et ça fonctionne.
Mais il y a différentes formes. Il y a le terrorisme de masse, comme le 9-11, et puis il y a aussi des actes isolés qui font évidemment beaucoup moins de victimes, mais qui restent des actes terroristes.
Ah ben vous voyez, vous rentrez en pile dedans, parce que les tours qui s'effondrent, qui savait qu'elles s'effondreraient ? Sûrement pas les concepteurs. Elles avaient été conçues pour être percutées par un avion, compte tenu du fait de la proximité de la Guardia. Donc, si les tours s'est effondrées, c'est sûrement pas Ben Laden et sa bande qui pensaient que ça allait s'écrouler comme un château de cartes et que le bilan humain serait aussi terrible. Or, le bilan humain, c'est très occidental. Pour ces gens-là, la mort... Quand vous êtes prêt à monter dans un avion pour taper quelque chose, vous mettez votre vie en jeu, c'est pas les morts qui comptent, c'est le geste, c'est ce qui frappe.
C'est très intéressant ce que vous dites.
Et ce qui frappait, regardez les objectifs qui étaient prévus, ce qui frappait, c'était l'Amérique triomphante, la défense, le Pentagone.
C'est le symbole.
Le symbole
avant le bilan humain.
Et voilà.
C'est ouais. Toucher les démocraties en leur cœur, dans ce qu'il y a de plus... excusez-moi du terme, mais ce qu'il y a de plus sacré, de plus symbolique. Tout de suite, ça a marqué, tout le monde se souvient de ces avions qui s'encastrent dans ces tours. Et c'est ça qui a marqué. Et quand il y a eu effectivement, après on a entendu qu'il y avait aussi des attaques au Pentagone, tout le monde a compris qu'il s'agissait de faire plier l'Amérique, de faire plier nos démocraties. Donc oui, c'est pas anodin. Et je pense que, alors j'ai pas énormément de recul par rapport à ce qui était avant, mais en tout cas, je pense que ça a été une prise de conscience que, effectivement, le monde ne serait plus comme avant et que non, le terrorisme ne s'est pas banalisé. Quand vous citiez justement ces attaques, entre guillemets...
Je pose la question de façon provocante, vous
l'aurez
compris.
Mais je sais bien. Mais plus particulière, où quelque part le bilan humain est moindre, mais quand même une personne, c'est déjà beaucoup, eh bien tout de suite, on retient notre souffle. Est-ce que c'est une attaque terroriste ou pas?
Oui.
Parce que ça change la lecture, quand bien même le bilan humain reste important.
Et on voudrait savoir tout de suite ce que disait Judith tout à l'heure.
Exactement.
C'est qu'on a tellement l'habitude d'avoir en temps réel sur nos smartphones l'information qu'évidemment, on n'a pas tout de suite la qualification terroriste ou pas.
Oui, enfin là je parlais pas de ça, hein. Je parlais de l'abstention d'Emmanuel Macron qui a soigneusement évité de parler de terrorisme.
Mais comment est-ce que vous la lisez justement cette abstention?
Parce qu'avec Emmanuel Macron c'est un jour sur deux, un jour il veut lutter contre le séparatisme et puis un jour il ne qualifie pas le
terrorisme. Vraiment, Judith Vintraub?
Ah bah oui.
Je crois qu'on se souvient aussi de ce qui...
Prenez ses déclarations sur le sujet, ce n'est qu'une suite de contradictions et bien malin qui pourra s'y retrouver.
Je vais laisser les autres répondre à
Mais non, juste sur l'épiphénomène, là, franchement, ça m'écorche les oreilles. Quand j'entends Christian Proutot parler du terrorisme, d'un épiphénomène, alors j'imagine, parce que vous fondez sur le nombre de morts, qu'il y a beaucoup plus de morts dans le monde par accident de voiture ou par catastrophe naturelle. C'est pour ça que vous qualifiez ça d'épiphénomène. On parle de quelque chose.
Non, je me permets de dire épiphénomène parce que moi, des terroristes, j'en ai vu pendant 10 ans, donc je peux en parler. Et je sais ce que j'ai fait pour le combattre. Donc je considère...
C'est pas la question,
mais si, c'est la question. C'est que j'ai eu le temps de me poser la question.
Et je pense que l'impact... Ne le prenez pas comme ça.
Si, parce que l'impact psychologique, moi, je l'ai vécu en direct. Et je sais ce que ça représente. Mais ce que je veux dire, c'est que la manière dont on surréagit, effectivement, n'est pas en proportion de la mesure, de la réponse qu'on y apporte.
En quoi
c'est
qu'on surréagit? Quand ce qu'on faisait de façon quotidienne, libre, aller au spectacle, aller au café, prendre un avion, se retrouve bridé, qu'on est obligé de montrer des papiers partout, de prendre des mesures de sécurité que jamais on a accepté, de diminuer nos libertés pour éviter... des attentats, on a profondément changé nos habitudes de vie, d'une part, et d'autre part, ce que cherchent les terroristes islamistes, c'est une fracture, une guerre de civilisation. Ils cherchent à l'exporter dans nos pays occidentaux, et ça n'a rien d'un épiphénomène.
Moi, je trouve que vous leur apportez
ce qu'ils espèrent, c'est une réaction qui ferait que tous les musulmans qui vivent en Occident se disent finalement il y a
Aurélien
une guerre,
Daché, peut-être
on n'est
que
pas
vous jouerez le juge de paix.
Non,
je
prétends pas jouer le juge de paix, mais en tout cas moi ce qui me frappe dans l'échange qu'on a, c'est qu'effectivement là où je crois comprendre ce que veut dire Christian Proutot, c'est que il y a peut-être en termes de, puis c'est l'expert qui parle, donc lui, moi en tant que responsable politique je vais faire attention à la portée symbolique, évidemment c'est mon rôle, l'expert lui de dire les choses un peu plus crûment, mais en revanche je crois que ce qui est réussi du côté des terroristes, c'est qu'effectivement ils ont cherché à ébranler nos certitudes, c'est votre expression, et que du coup, nos libertés, le modèle démocratique, nos modèles démocratiques se fragilisent. À partir de 2001, c'est le Patriot Act,
c'est
ensuite tout un tas une série de lois qui mettent en place des états d'urgence un peu partout, à tel point qu'Emmanuel Macron, qui avait dit qu'on en sortirait, a fini par le faire rentrer dans le droit commun, et c'est des libertés qui reculent de plus en plus. Et moi, je crois qu'à chaque fois qu'on s'éloigne finalement quelque chose de très, comment dire, ambitieux en matière de liberté individuelle, de démocratie et autres, on donne raison aux terroristes. Et c'est pour ça que cette espèce de, finalement, virage sécuritaire, cette course sécuritaire, elle est dangereuse en cela qu'elle est effectivement quelque chose qui
elle
peut remettre en cause nos modèles de société.
Mmh. Et ça, moi, ça me fait plus peur. Ça me fait plus peur. Ça me fait plus peur que le reste, parce que quand on voit le Patriot Act, quand on voit ce qui s'est passé à Guantanamo, comment peut-on souscrire à des choses pareilles? Comment peut-on défendre nos idéaux
en acceptant... En commençant par l'état de droit.
Voilà, en faisant... Pire, pas pire, mais dans l'esprit, c'est pire.
Vous parliez
torture,
de vengeance tout à l'heure,
la vengeance,
c'est un parallèle.
Pire que ceux que l'on croit combattre. Oui. On ne peut pas gagner une guerre comme ça en prenant les armes de l'ennemi. Moi, c'est mon point de vue.
C'est-à-dire, par exemple, qu'il faut laisser rentrer les candidats à l'asile sans se demander... quelles sont leurs convictions et s'ils adhèrent aux valeurs républicaines ?
Je ne crois pas que c'est ce que...
Non, mais c'est
ce que
je veux
dire. Ça veut dire qu'on ne peut pas torturer dans les prisons à Guantanamo,
oui,
voilà, les Américains.
Je ne pense pas qu'il y ait un rapport avec ce que vient de dire Christian Proutot.
Le débat actuel sur sur le durcissement des conditions d'asile, c'est exactement celui que nous dicte le danger terroriste.
Mais pas du tout, c'est nous qui payons le premier prix. On parlait justement des libertés. Monsieur Taché parlait des libertés. Bien évidemment, on met en place tout un tas de structures qui font que, pour se protéger de quelque chose d'éventuel, qui, lorsqu'il arrive, nous frappe...
Par exemple, après l'attentat à la préfecture de police de Paris, effectivement, Christophe Castaner, alors ministre de l'Intérieur, a parlé de tout un éventail de mesures qui étaient toutes peu ou prou des contraintes sur nos libertés pour détecter des conversions et d'éventuelles intentions terroristes. Ce sont des restrictions de nos libertés. Il ne faut pas le faire.
Mais elles ne marchent pas, ces restrictions de nos libertés.
Ah oui, bon, combien d'attentats déjoués?
Oui,
je ne dis pas qu'elles marchent à
100%.
Ça n'a rien à voir avec les exceptions qui sont prises ces derniers temps sur l'état d'urgence, sur le séparatisme ou autre. Ça, c'est la qualité de nos services de renseignement. Qu'il faille renforcer la lutte antiterroriste et nos services de renseignement, moi, je suis tout à fait d'accord. Il ne s'agit pas d'être naïf. En revanche, on change les principes démocratiques, justement. parce que il y a cette pression terroriste. Ça, par contre, ça m'inquiète beaucoup. Et malheureusement, depuis des années, c'est ce qui se passe. Et parfois aussi qu'on mélange ça avec des sujets de questions migratoires. Moi, j'ai aucun problème à ce qu'on soit vigilant sur, et extrêmement vigilant même, sur qui viendra en Europe. Mais c'est pas pour ça qu'il faut restreindre le droit d'asile d'une manière générale. Il faut simplement faire notre travail, comme on aurait par exemple dû le faire encore mieux à Abu Dhabi, en regardant effectivement qui sont les gens, mais certainement pas en changeant le droit d'asile, parce que ce serait encore une victoire pour les terroristes. Et ça, c'est vraiment ça, moi, qui me préoccupe.
Surtout quand on sait qu'une partie a été endogène, hein. Une partie de nos assaillants.
Justement, c'est sur ça. Mais sur le sujet, on va être d'accord sur un point, c'est le sujet, effectivement, du renseignement territorial. Et c'est la raison pour laquelle il a été, effectivement, mis des renforts supplémentaires, notamment humains, mis le recrutement, mais également financiers. Mais sur le sujet, moi, je vais aller plutôt dans votre direction, je dis, c'est effectivement, il faut aussi qu'on puisse s'outiller. Alors, c'est pas forcément au détriment de nos libertés, mais c'est au détriment de certaines libertés de personnes qui... parce que le sujet aussi endogène, sont déjà sur le territoire et peuvent se servir de nos, peut-être, lacunes qui existaient par ailleurs pour venir essayer de convaincre des personnes plus fragiles à s'outiller contre nous. Typiquement, la loi séparatisme va dans ce sens et c'est pour ça que je ne comprends pas votre message, Judith, tout à l'heure, sur le fait que Emmanuel Macron semble tantôt à l'aise, pas à l'aise sur sa lutte contre le terrorisme. Je pense que elle a fait beaucoup couler d'encre cette loi, ce projet de loi contre les séparatismes, mais également, souvenez-vous, du droit au blasphème. Juste à ce moment-là, il y avait aussi ce moment où Emmanuel Macron est sorti et a expliqué que le droit au blasphème était possible en France. Et souvenez-vous, ce qu'on avait eu...
Non, il n'a pas dit ça, il a dit ça n'existe pas, il a bien fait de le dire.
Oui, pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Tout à fait, exactement, tout à fait. Et souvenez-vous de ce qu'on a eu comme manifestation où des portraits du président étaient piétinés. On a eu aussi une menace à ce moment-là extrêmement importante sur le territoire français. Donc, je pense que s'il y a bien un sujet sur lequel, et d'ailleurs, je pense que depuis le début, on a un peu tous d'accord sur ça, c'est que la menace est bien identifiée et que oui, il va falloir s'outiller parce qu'il en va de nos libertés fondamentales.
Moi, je ne suis pas d'accord. Aurélien, je pense que la loi sur le séparatisme restreint les libertés fondamentales d'une manière générale. D'ailleurs, pas que moi qui le dis.
Précisément
de, la liberté d'association, la liberté d'instruction
absolument
à domicile,
pas.
La liberté
absolument
de culte.
Absolument pas. Elle encadre. Absolument
non, elle vient restreindre ses libertés d'une manière générale pour les Français.
Après,
oui, mais elle encadre.
Voilà. Après, on peut être d'accord ou pas.
Mais elle
moi, je ne suis pas. Mais elle restreint ses libertés. Et ça me gêne que vous ne reconnaissiez pas ça. Parce que pourtant, si, c'est une loi qui fait effectivement... Alors, c'est un choix politique qui est fait, on le soutient, on le soutient pas, mais il faut l'assumer. On ne peut pas dire que ça ne restreint pas la liberté de culte, la liberté associative et la liberté d'instruction à domicile de l'ensemble des Français, et pas uniquement des terroristes qu'on voudrait arrêter. Et Judith Ventroub disait juste avant, une des objectifs des terroristes, c'est de faire en sorte que tous les musulmans en Europe, en France, finalement, puissent se sentir... ne pas se sentir à leur place, et demain, peut-être, se soulèvent ou autre. Alors, je ne dis pas que cette loi va faire ça, mais en restreignant les libertés d'une manière générale, en ayant en tête une pratique, une religion en particulier, eh bien moi je trouve qu'on ne va pas dans le bon sens.
Non,
on ne va absolument pas dans le bon sens.
Quelle autre religion fait peser un danger terroriste sur la France ?
Je vais dire que là, vous tombez sur des... Excusez-moi, je pense que là, on retombe sur les vieux sujets qu'on a eu en début d'année sur ce sujet. Il ne s'agit pas de venir montrer du doigt et de faire des amalgames sur les musulmans. Mais non, c'est vous qui le faites.
À l'Assemblée, moi j'y étais.
Écoutez, alors là, je pense qu'excusez-moi, mais c'est faire un procès qui n'a pas lieu d'être. C'est pas parce que je ne suis pas députée que je ne suis pas
députée. Non, je n'ai pas dit ça. Je les ai plus que suivis
et tout un chacun peut suivre heureusement ce qui se passe à l'Assemblée parce que c'est pas toujours très joli.
Mais alors comment vous
pour être
dire
très clair, il ne s'agit pas d'une loi. Mais ça veut dire que vous faites un amalgame entre islamisme et islam.
C'est
ce que vous êtes en train de faire. C'est exactement ce que vous êtes en train de faire et vous allez dans le sens du coup de ceux qui s'en prennent à nous et c'est le sujet du débat depuis tout à l'heure. Les terroristes qui veulent nous montrer qu'on s'en prend aux musulmans de France.
Mais est-ce que la loi restreint la liberté de culte d'une manière générale?
Est-ce
qu'elle demande à toutes les
associations
d'une
manière générale, effectivement, donc pas simplement pour l'islam.
Oui, mais dans les débats parlementaires et dans les intentions du gouvernement, on a bien quand même compris quel était le sous-titre. D'ailleurs, des ministres ont répondu clairement, on n'a pas fait une loi contre l'islam parce que ça aurait été inconstitutionnel, donc il faut arrêter de prendre les gens pour des idiots quand même. Non, je suis désolé,
faut
assumer.
Arrêtons de prendre des gens pour des idiots, il n'y a pas d'attentat bouddhiste.
Non mais d'accord, on peut avoir un débat là-dessus si vous voulez, mais là je vous parle de cette loi séparatiste, de la restriction des libertés qu'elle pose, etc. Bon, il n'y a pas d'attentat bouddhiste, mais il y a aussi des attentats qui sont liés à d'autres idéologies dans le monde, religieuses ou politiques, en France aussi d'ailleurs, on en a régulièrement maintenant qui sont liés par exemple à l'idéologie nationaliste suprémaciste, donc il y a aussi du terrorisme sur d'autres aspects. Non, non, mais au-delà de ce débat-là, je suis désolé, il faut assumer, vous avez raison de dire à Judith Ventroub qu'Emmanuel Macron il a changé là-dessus, il a très clairement changé, et aujourd'hui il est prêt à faire reculer les libertés d'une manière générale.
J'ai pas dit qu'il avait changé. Non, vous trompez, vous trompez. Là, j'ai justement pas dit qu'il avait changé. J'ai dit qu'effectivement.
Vous étiez étonné que Gene Ventrop trouve qu'il n'était pas convaincu par ce changement. Vous avez raison, il a changé.
Est-ce que vous allez à votre tour faire le juge de paix?
Ah non, je vais pas faire le juge de paix. J'espère pas mettre de l'huile sur le feu. Par contre, ce que je veux dire, c'est que comme toujours, on juge les problèmes en aval. Et la cause, on s'en préoccupe pas. Moi, j'aimerais qu'on m'explique, et ça, personne s'est posé la question. Mmh. Les 19 qui sont montés dans les avions, en montant dans les avions, ils savaient qu'ils allaient mourir, puisqu'on parle du 11 septembre. Est-ce qu'on est capable de faire ça, nous? Quel est le moteur qui amène les gens à faire ça? Moi, j'ai formé, et mes successeurs l'ont fait, les hommes les plus courageux qu'on puisse trouver parmi les nôtres. Mais il n'y en a pas un qui se ferait trouer la peau volontairement pour finir un acte. Il y a toujours un espoir.
Pour ça.
Voilà, il y a
c'est
pas
ça
de logiciel.
Qu'on appelle les idéologies meurtrières.
Donc, tant qu'on ne comprendra pas le logiciel, on sera pas capable de le combattre. Et si on le combat en faisant profiter à tout le monde de ce quoi on croit être un écran contre ça, eh bien, on se trompe.
Merci beaucoup à vous quatre, Judith Vintraube, Christian Proutot, Prisca Thévenot, Aurélien Taché. Vous revenez, bien sûr. Juste après le journal de 19h, on abordera un autre sujet politique, puisqu'on parlera du bilan d'Emmanuel Macron. On est à 200 jours de la présidentielle. Emmanuel Macron, non, n'est pas candidat. Ça ne l'empêche pas de faire le service de presse. On vous expliquera tout, puisque, évidemment, il y a proches d'Emmanuel Macron qui font ils défendent le bilan d'Emmanuel Macron à 200 jours de la présidentielle. Et puis, à partir de 19h30, 19h35, on parlera du prix Goncourt parce qu'il approche, parce que, comme chaque année, il y a une liste du prix Goncourt avec, à la fin, une autre liste plus petite. Et puis, quatre finalistes à la fin. À la fin, il y aura un seul Goncourt. Ce livre-là se vendra à environ 300 000 exemplaires. Mais est-ce que ce Goncourt a encore le panache des Goncourt des années 60, des Goncourt de tous ces écrivains qu'on a aujourd'hui oubliés, qu'on relit avec beaucoup de plaisir? On en parle dans Europe Soir.